Chers amis, bonjour. Je suis content de vous retrouver par cette journée printanière. Et le printemps annonce beaucoup de choses en pleine espérance. Et j'espère que vous allez passer une très belle journée pendant cette émission en ce mardi. Et je reçois aujourd'hui un jeune ébéniste. Alors, on est jeune quand on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, peut-être même 60 ans quand on est ébéniste et menuisier. Et je reçois donc aujourd'hui Romain Gardet de Sauce, qui est donc menuisier et ébéniste. Il va nous donner, bien sûr, la façon dont il est arrivé dans ce métier. Moi qui me sensibilise beaucoup, parce que la restauration du mobilier, nous n'aurions pas du mobilier ancien si nous n'avions pas des restaurateurs, et un meuble du 18e a probablement été restauré. On voit de temps en temps, et c'est ce qu'on dit dans notre jargon professionnel, un meuble dans son jus, c'est-à-dire qu'il n'a pas bougé depuis 150 ou 200 ans, ça peut arriver. Et nous avons donc des restaurateurs, des gens qui s'imprègnent de l'objet, un peu comme un médecin s'imprègne pour faire un diagnostic, regarde un meuble, un objet d'art, une sculpture, on fait un diagnostic. Et puis je pense que en regardant un meuble, on essaye aussi de rendre hommage à ceux qui ont fait ce mobilier avec un génie inventif fabuleux, une exécution remarquable. Et donc aujourd'hui, c'est comme d'un point de vue moral ou spirituel, nous avons un passage à faire pour les générations suivantes. Eh bien, je crois que le menuisier et l'ébéniste, c'est ce qu'il fait en restaurant et en donnant bien sûr le bon conseil. Bonjour cher Romain.
Bonjour cher maître.
Voilà.
Bonjour à tous les auditeurs.
Donc Romain, comment es-tu arrivé dans le métier ? Je le tutoie parce que je connais bien sa famille, une famille très traditionnelle en tout point. Donc vous devez savoir, Radio Courtoisie, que la tradition, bien sûr, c'est l'essentiel de cette radio, entre guillemets. Et donc Romain, alors.
Oui, j'aime écouter Radio Courtoisie d'ailleurs. J'ai la chance d'exercer ce métier qui me passionne. Ça fait maintenant une trentaine d'années. Et j'étais d'ailleurs scolarisé pas très loin d'ici. Je passais devant Radio Courtoisie pour rejoindre le lycée La Fontaine.
Ah oui, boulevard Montvert, bien sûr.
Voilà. L'école n'était pas vraiment mon fort. Je regardais un peu trop souvent par la fenêtre et tenais pas bien en place. Et vite, mes parents, mes grands-parents ont vu chez moi un esprit plus pratique. Et je me suis vraiment épanoui dans ce métier.
Il y avait des gens dans ta famille qui exerçaient déjà, peut-être.
Oui, oui, oui.
Il y a des gènes.
Oui, il y a des gènes. Alors, du côté de ma mère, c'est une famille d'artistes, en effet. Il y a aujourd'hui de nombreux artistes encore qui exercent. Et notamment mon cher oncle qui m'a formé qui est maintenant en fin de carrière, Benoît Blaise, au Faubourg Saint-Antoine.
Ah oui.
Et qui m'aura mis, non seulement qui m'aura formé pendant 10 ans, mais qui m'aura mis le pied à l'étrier pour moi-même m'installer dans un atelier. Voilà.
Oui, parce que tu as commencé quand alors ?
En 1996. Je commençais par faire de la tapisserie en siège à l'école Boulle. Et puis j'ai fait pendant 2 ans. Et suite à quoi je suis rentré dans l'atelier de Benoît Blaise, dans ce magnifique atelier où on se croirait encore au 18e siècle.
Il existe toujours cet atelier. Oui. On peut le visiter, on peut aller le voir, ou on peut.
Oui.
Si des gens s'intéressent. Alors, parce que, en fait, je te fais parler de ça parce que nous avons peut-être des auditeurs de Radio Courtoisie depuis de nombreuses années, mais peut-être pour leurs enfants, leurs petits-enfants, il est important qu'on puisse les aiguiller et que s'ils ont, comme toi, tout d'un coup, une étincelle grâce à la famille,
ouais,
on puisse éventuellement les diriger. Donc ouais, il a toujours cet atelier ?
Oui, il a toujours cet atelier qu'il est en train de transmettre. Il arrive maintenant, après ses très bonnes années de service et de transmission, à la retraite. Et, Et bon, c'est un atelier qui est plutôt confidentiel, en fond de cours.
Comme souvent.
Oui, qui est un grand atelier. J'ai pu travailler sur des objets, même dès mon arrivée en apprentissage, sur des objets de vraiment belle qualité.
Tu as travaillé un petit peu avec lui, donc?
Ah oui, mais complètement.
Ah oui.
Oui, c'est lui qui m'a appris le métier. Et ses compagnons ébénistes, puisque l'atelier à l'époque, quand je suis arrivé, il y avait une bonne dizaine,
ah oui, d'apprentis,
je pense,
et autres.
De salariés confirmés, notamment ébénistes, vernisseurs.
Doreur, non peut-être.
Alors, doreur, c'est un métier, oui, complémentaire, mais il y avait... En effet, il a travaillé avec des doreuses
un peu
de temps avant que j'arrive. Et il y avait également un sculpteur, voilà,
oui,
dans son atelier.
Et alors, on reparlera de la sculpture, effectivement. Et en fait, ce métier s'est raréfié, bien évidemment.
Oui, il y en a moins de sculpteurs, beaucoup moins.
Moins de sculpteurs. Ouais.
Et d'ailleurs, tous ces artisans qui étaient concentrés au Faubourg Saint-Antoine depuis le Moyen-Âge, puisque avant que... ce faubourg Saint-Antoine soit inclus dans Paris, ce n'était qu'un faubourg.
Et, en périphérie de Paris.
En périphérie de Paris.
Ah oui, puisque Paris commençait à Lutèce, commençait à 4 km un peu plus à l'ouest.
Oui. Mm. Et ce sont des religieuses à l'époque qui ont permis aux ouvriers libres, c'est comme ça qu'on les désignait autrefois, depuis le Moyen-Âge, à s'installer. Aux artisans, à s'installer dans leurs alentours pour pouvoir entretenir leur couvent.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, le mobilier était à la fois utilitaire, mais esthétique.
Ouais.
On a perdu cette notion, justement, d'architecture-sculpture.
Ouais.
Et donc, aujourd'hui, on est à minima, on parle de design, c'est un terme que l'on n'emploie pas vraiment ici, à Radio Courtoisie, mais on peut quand même dire qu'aujourd'hui, on est devenu très minimaliste et que le génie inventif a peut-être un peu disparu, et beaucoup disparu. Donc, c'est effectivement, ces communautés religieuses avaient besoin, bien sûr, de fournisseurs, aussi bien pour faire une pièce dite à la capucine, et on en reparlera peut-être tout à l'heure. Donc, c'était des artisans qui étaient souvent en grande concurrence parce que on avait besoin de beaucoup de mobilier, bien évidemment, dès le XVIIe siècle, parce que l'armoire, la plus vieille armoire qu'on connaisse, je crois qu'elle est dans la Creuse, si je me souviens bien, je vais retrouver le terme, a priori, enfin la région, et surtout le nom de la ville. Eh bien, à part ça, dès le XIVe, on a fait quand même du mobilier.
Voilà, c'est ça. Et c'est surtout après, c'est surtout grâce à Louis XIV que le mobilier s'est développé et il a fait venir des artisans. Il s'est inspiré de la Renaissance
italienne.
Autrefois, il faisait importer ces miroirs de Murano.
L'Italie.
Et ensuite, il a fait créer les Gobelins avec Colbert pour faire ses propres manufactures. Et
déjà, Henri IV avait commencé, et même François Ier, à faire venir des artistes étrangers pour la réputation de la France.
Oui, il y a eu beaucoup d'échanges avec l'Italie.
L'Italie, et puis le Nord, le Hollande, les cabinets italiens.
Bien sûr.
Les cabinets
italiens et hollandais.
Oui, hollandais, exactement.
Oui, c'est vrai, avec ces grands ébénistes qui ont servi Louis XIV comme Pierre Gol.
Pierre Gol.
Puisqu'on parle des cabinets, il en a fait de somptueux. Et puis, évidemment, André Charles Boulle.
Le grand ébéniste.
Du roi.
Ouais. Du roi.
Ouais.
Alors, comme cette émission s'appelle Art bâton rompu, on parle d'une question ou d'une autre. Mais alors, maintenant, on va parler de la menuiserie. Il y a le menuisier, et puis il y a l'ébéniste.
Ouais.
Et puis il y a les menuisiers en ébène. Voilà.
Oui.
Alors, la différence, déjà, pour que nos auditeurs reviennent à des notions, je dirais, très pragmatiques. le menuisier.
Alors, le menuisier, ce qui va peut-être séparer les deux métiers de menuisier et ébéniste, c'est que souvent, le menuisier va faire des boiseries qui vont faire partie...
intégrante
du bâtiment.
De la pièce, oui.
Voilà. Et l'ébéniste va lui fabriquer des meubles qui seront ouvragés et qui seront mobiles, donc comme le nom l'indique. Ensuite, le menuisier va travailler le bois massif à partir de l'arbre coupé. Ce qui est fascinant, c'est que ces ébénistes du XVIIIe siècle travaillaient à la main depuis en effet la coupe de l'arbre jusqu'à la finition de la sculpture et jusqu'à son polissage et ensuite la finition à la cire qui était pratiquée au XVIIIe siècle. Le vernis était très très peu utilisé.
Oui, c'est la cire. On parlait des... Tout à l'heure, je te coupe, mais ouais. On parlait des menuiseries à la Capucine, ces fameuses boiseries qui étaient dans les abbayes et qui étaient aussi dans les châteaux, souvent dans les salles à manger à partir de Louis XIV. On avait des boiseries nature qui n'étaient pas du bois de plaquage, c'était vraiment des panneaux de bois plaqués. Et d'ailleurs, quand le château de Versailles a fait des restaurations, je me souviens, il y a plus de 40 ans, on a fait l'appartement des bains au rez-de-chaussée du château et je me souviens très bien qu'il y avait normalement au départ même des boiseries de Hoppenort et on avait perdu ces boiseries. Ouais. Donc on s'était dit on va en refaire d'après les cartons, car évidemment quand on élabore une sculpture on fait d'abord un dessin et un projet, et donc ça tu pourras en parler bien évidemment. Et en fait quand on s'est aperçu que on allait démonter des boiseries, en démontant les boiseries on s'est aperçu qu'en fait les boiseries avaient été retournées sous Louis-Philippe et on avait biffé tout ce qui était en sculpture en demi-rond de bosse. Donc on a réutilisé finalement les bois qui existaient, qui avaient été peints gris Trianon comme on dit, un gris qui n'était pas un gris sale, c'est devenu sale entre guillemets ou poussiéreux parce que pendant 30 ans on n'était plus à Versailles, et on a retrouvé ces boiseries à l'intégralité. On a dû refaire simplement toutes les coquilles un peu manquantes. Voilà. Donc ça, pour parler des boiseries, donc les menuisiers en boiserie, on va dire.
Voilà, menuisier en boiserie. Et alors, et le métier d'ébéniste, ce qui va le distinguer vraiment, c'est que le bois est recouvert sur toutes ses surfaces de plaquages, de plaquettes de bois qui sont mis en forme soit de frisage géométrique, soit de marqueterie qui peuvent être fantaisistes, représentant les végétaux, le monde animal, ou même fantastiques avec des masques, des grotesques, des oiseaux de paradis, des singes.
Et tout ça dans une forme dans la polychromie, car en fait, on connaît aujourd'hui du mobilier... restauré avec peut-être un petit côté de bois de citronnier par exemple qui donne une couleur, mais au 18e tout était assez vif, puisque d'abord aujourd'hui nous sommes éclairés à l'électricité, mais à l'époque c'était un éclairage naturel. Le grand témoin pour moi et qui rejoint probablement ce que tu vas nous expliquer justement dans la polychromie du mobilier, c'est la céramique. La céramique au XVIIIe siècle, c'est à partir de couleurs naturelles, il y a une glaçure et un vernis qui est dessus, et la couleur est inaltérable. C'est pas le cas ni du mobilier, ni des tapisseries, même de la peinture. Mais là, vraiment, l'art vraiment exprimé au XVIIIe dans la polychromie, c'est les témoins sont la céramique.
Ah oui.
Alors donc, je pense que on a quelques meubles encore, même le rechampi, on va parler de ça aussi. Cette émission qu'on prend avec Romain, je pense qu'on a tellement de choses à dire. Il viendra peut-être nous voir, et si vous êtes intéressé, dites-le nous, si vous voulez qu'on refasse une deuxième émission. Mais tout ça pour parler que le bois était souvent peint, coloré, ou les bois étaient de couleurs différentes pour justement montrer les reliefs.
Les essences.
Voilà,
les essences. Les ébénistes jouaient avec les essences des bois pour... pour créer comme un décor dessiné ou peint, alors qu'en fait, c'est la nature des bois qui révèle ces décors.
On le voit dans les décors théâtraux, si je puis dire, des cabinets.
Oui, oui, dans les décors de théâtre, c'est ça, c'est le coffret intérieur central du cabinet, et sur les parements également, on utilisait beaucoup les cailles de tortue, également les filets de laiton qui renvoient la lumière, vous en parliez tout à l'heure, et qui donnent un effet doré, et qui permettent de mettre en valeur, ou également l'os ou l'ivoire, des scènes qui peuvent être amusantes souvent, parce qu'on voit que c'est nos ancêtres à cette époque-là étaient des gens qui savaient certainement rire.
Et un peu facétieux pour certains.
Un peu facétieux, oui. En effet, je pense aux dessins qui ont été après reproduits en marqueterie, au dessin de Jean Bérin, par exemple. Vous parliez d'Oppenor aussi.
Bien sûr. Ces grands ornemanistes.
Oui, ornemanistes, c'est ça, des grands ornemanistes. On a parlé de Pierre Gol. Il y en a d'autres comme les H, Thomas H, par exemple.
Une dynastie de.
Dynastie de Grenoble.
De menuisier.
Menuisier ébéniste.
Ébéniste, oui.
Une longue lignée, d'ailleurs, de menuisier ébéniste qui a démarré sous Louis XIV.
Alors, des meubles, alors là, puisqu'on parle là encore à bâton rompu. On parle du mobilier qui a commencé avec les haches en 1720, quelque chose comme ça, je pense, assez tôt, sous la Régence. Alors qu'on fait des mobiliers, je dirais, bruts, c'est-à-dire vraiment en bois naturel, souvent du noyer, puisque cette région de Grenoble est remplie de...
Et des loupes.
Et alors là, voilà. Alors maintenant, on va parler...
Des bois de loupes, des magnifiques. De loupes.
Ouais.
Magnifiques.
Et puis, une restauration... que tu as dû faire chez un de mes clients. C'est un bureau de pente qui est en fait un grand bureau très ouvragé, probablement justement de haches. Et là, on voit des boîtes couleurs.
Oui. Alors c'est Jean-François,
c'est
le troisième, c'est plus Louis XV, qui utilisait des sycomores qu'il teintait dans la masse. C'est un procédé qui était, je crois, qui gardait relativement secret. Il avait comme concurrent le fameux Jean-François également Eubène, qui était ébéniste de Louis XV, et qui a fait le fameux bureau
de Louis
qui
XV.
A dessiné le fameux bureau de Louis XVI, qui n'a été livré que par son successeur. Riesner, oui.
Voilà.
Et qui est
le bureau que vous voyez à Versailles.
À Versailles, voilà, bureau à cylindre. Qui a dû, je crois que c'est une commande qui s'est fait attendre une vingtaine d'années, peut-être.
À peu près, une chose étonnante, le secrétaire passait derrière le bureau et ouvrait un tiroir secret, je crois, tu peux en parler.
Mais alors, moi, j'ai un vague souvenir qu'il y avait dans les bougeoirs des systèmes de tuyauterie qui permettaient de remplir les encriers sans avoir à ouvrir
et le
cylindre.
Et que le roi ne soit pas dérangé justement l'apanage de ces encriers.
De ces entretiens, voilà.
Ouais.
et donc l'abattant restait fermé, bien...
Secrétaire.
Voilà, l'abattant
en
cylindre était bien confidentiellement fermé.
Alors on parle donc justement...
À l'abri des regards.
Voilà, on parle justement des meubles d'ébénistes, et puis il y a les meubles justement en ce qui concerne le meuble de menuiserie. Donc on revient un petit peu sur Grenoble, et une caractéristique du mobilier de cette dynastie, c'est en bois brut, on a un filet de bois noir. Alors, ce filet de bois noir, c'est en quoi ?
Quelquefois, ce bois, il me semble qu'il était peint parfois.
C'était du poirier, non pas forcément, c'était du bois peint, oui.
Alors, en effet, il y a des frises très fréquemment, vous avez raison, parce que ces meubles pouvaient être en noyer et incrustés de décors sur fond d'ébène et les décors étaient faits, eux, en bois clair, en buis ou probablement. qui représente des frises géométriques
voilà,
et qui soulignent les moulurations, par exemple, de la corniche ou le cadre d'entourage du meuble. Pardon. Voilà, ce sont des... Bon, c'est vrai que ce sont des ébénistes que j'apprécie, que j'affectionne particulièrement, en effet, cette dynastie des haches.
C'est des gens qui avaient un sens de l'esthétique fantastique.
La ligne.
Ouais. La ligne, et puis c'était des meubles chaleureux, parce que c'est des meubles souvent en bois naturel, et puis après, ils ont fait des meubles exceptionnels, en bois de... Non pas en bois d'arbre, comme on pourrait dire.
Recouvert de plaquages très sophistiqués, très bien mis en valeur par leur décor géométrique ou fantaisiste aussi, parce qu'ils aimaient...
Ils interprétaient aussi.
Ils aimaient faire de la marqueterie représentant des scènes vivantes avec des personnages, des oiseaux, encore une fois, des papillons, des marqueteries très sophistiquées et florales. Qui se dégageait sur des fonds bien souvent en ébène pour mettre en valeur ce décor magnifique.
Il y avait un fond de bois brut, entre guillemets, sur lequel on agrémentait un certain nombre de marqueterie.
Oui. Oh, c'était bien souvent entièrement plaqué. Je pense à des commodes à caissons de Thomas H. Il y en a de sublimes, des commodes un peu mazarines avec des pieds qui sont en ressaut, en retrait. Elles sont parfois en arbalète aussi. Et les mouvements, y a un rythme dans ces meubles qui est d'une élégance et qui pour l'œil est un vrai régal. Voilà.
Et souvent, ces meubles-là, il y avait les meubles de commande, bien sûr, puis il y avait les meubles, comme on dit, utilitaires, mais de grande qualité, qui allaient souvent dans les institutions religieuses, puisque c'était quand même là où on conservait, et aujourd'hui d'ailleurs, le mobilier d'église, pour ce qu'on en connaît, c'est quand même les meubles qui sont les plus authentiques, parce qu'ils ont été très bien entretenus pendant jusqu'à la Révolution française, quand la Révolution n'a pas fait ce qu'elle aurait dû faire, la conserver. Et on voit aujourd'hui, quand on visite aussi bien une église de village qu'une cathédrale, on voit d'abord le travail de menuisier, souvent avec la chair essentiellement, et puis évidemment le cœur sculpté. On peut parler aussi bien, par exemple, à l'église des Blancs-Manteaux, on a une chair qui d'ailleurs est datée, il y a des incrustations d'ivoire, donc c'est une chair très, très élaborée. Je me demande si elle est vraiment française d'ailleurs, je ne me souviens pas vraiment, mais très élaborée, je pense un petit peu aux artistes allemands. Et puis à côté de ça, on peut parler de, par exemple, du chœur de l'église de Hoche, de la cathédrale de Hoche. À Hoche, on a un chœur extraordinaire de bois sculpté, entre autres.
Oui.
Voilà. Alors on peut parler aussi peut-être des techniques. Alors, on parlait tout à l'heure de ronces et de loupes.
Oui.
Alors, la différence entre la loupe et la ronce, ce sont des bois coupés. Alors, en bois de boue, en bois de fil, on va peut-être parler déjà des bois de boue et des bois de fil.
Oui, alors, la ronce, après on parlera, puisque vous me parlez de la ronce, la ronce, c'est une excroissance qui est une maladie de l'arbre qu'on voit dans les branches souvent. Voilà. Et cette excroissance... comme souvent dans les maladies, révèle des trésors, finalement.
C'est un peu comme un grain de beauté, finalement.
C'est comme un grain de beauté, voilà.
C'est-à-dire, vous les voyez sur les arbres, sur un tronc, vous voyez des excroissances, et en fait, c'est ça. Souvent, on les coupe, ou on n'ose pas les couper parce qu'on a peur de blesser l'arbre, puisque à ce moment-là, il n'y a plus d'écorce. Donc, et c'est cette partie-là qu'on réserve pour faire, justement, un plaquage en ronce.
Voilà, donc quand on coupe ces sortes de boules, ou alors... C'est soit une excroissance, soit au niveau de la racine qu'on va avoir la loupe. Hein.
C'est-à-dire qu'on coupe l'arbre perpendiculaire au tronc.
Au tronc.
Et là, on s'aperçoit qu'il y a plein de petites ramifications, un peu comme des veines.
Voilà, ou même de travers. Et on a un résultat très noueux et très tortueux. Voilà.
Très dense.
Très dense également aussi. Et ça fait comme des petites taches très resserrées.
On voit ça souvent sur sur des, si vous avez ça chez vous, vous avez ces petits, des petites boîtes à bijoux qui sont à l'intérieur avec capitonnés sous Napoléon III. Par exemple, un grand illustrateur de ça, c'est par exemple Tahan, qui était un tabletier, qui était un tabletier sous Napoléon III. Donc on a la ronce et puis alors la loupe.
Alors, ça c'était la loupe.
Oui,
et,
la loupe.
Et la ronce, ça va être un effet de...
Parce qu'on a, on s'est trompé. On a donné.
On a parlé de la loupe.
On a parlé de la ronce.
On a parlé de la loupe là.
Mais c'était la loupe, voilà.
Là, on a parlé de la loupe.
Et croissance.
Et donc la ronce, elle, c'est la séparation principale de du tronc avec sa avec ses branches principales.
Ah ben voilà, j'en parlais tout à l'heure avec un de mes confrères et je ne me souvenais pas de ça.
Et quand
bravo à mon confrère qui m'a rappelé effectivement la loupe, c'est ça,
la ronce.
La ronce, c'est ça.
On a un effet de mouvement dans la ronce, un effet de mouvement comme un arc. Ça fait comme voilà, c'est entre deux branches principales. Et ça fait cet effet comme un arc-en-ciel sans les couleurs, juste avec la couleur du bois, vous voyez. C'est très ramageux. Voilà, la ronce est ramageuse,
et ça permet
contrairement au bois de fil.
Oui, et ça permet de faire des ailes de papillon.
Alors les ailes de papillon, on va les utiliser plutôt avec des le bois, on le coupe à 45 degrés, on coupe le bois dans l'âme, on appelle ça même aussi des semelles, et ça fait en effet c'est ronceux, ça donne cet effet ronceux.
Et en fait, on scie la partie et on l'oppose.
Oui.
Voilà, mais c'est pas deux morceaux, les deux morceaux sont pas nés ensemble. C'est-à-dire que on a une première partie, on la coupe.
On la coupe et on fait une autre.
Une deuxième lamelle juste en dessous et qu'on met en opposition.
C'est comme si vous coupiez un morceau de saucisson. Voilà,
exactement.
Et on met
en opposition.
Voilà, et on les oppose après de manière orthogonale et ça fait une symétrie.
Qu'on voit souvent sur des secrétaires Louis XVI assez classiques.
Oui. C'est Mijon qui aimait mettre en valeur ces ailes de papillon qui ressemblent un peu aussi à des cœurs, si on veut, qui est un ébéniste qui a travaillé sous la Régence. Il y a eu plusieurs, d'ailleurs, c'est une dynastie d'ébénistes. Il s'appelait tous Pierre.
Pierre, oui.
Et le premier était réputé pour l'emploi de ces semelles. On appelle ça des semelles ou des ronces. Mais les ronces, c'est plus ramageux, c'est un peu plus large. Alors que la semelle, vous avez vraiment l'effet de papillon avec ce qu'on appelle les semelles. Ce sont des morceaux de bois qui sont généralement assez pas trop larges. Et qui sont coupés, comme je vous disais, à 45 degrés. Et c'est souvent du bois de violette qu'on appelle violette pour sa couleur, ou du bois de rose également pour sa couleur.
Pour la couleur, mais par contre, c'est ni de la rose.
Et qui sent très très bon.
Et c'est pas de la violette non plus.
Ouais,
ce sont des bois. C'est quoi comme bois au départ ?
Ce sont des bois qui
un peu tendres,
qui sont très durs. Ce sont des bois de la famille des palissandres qui étaient importés d'Amazonie, du Brésil. À la fin du XVIIe siècle et qui ont été très très utilisés au XVIIIe siècle. Il y a également le bois de satiné et le bois d'amarante. Voilà, ce sont les quatre essences très utilisées de bois exotique et l'acajou bien sûr. Voilà.
Alors, on parlait du bois de fil et du bois de boue.
Oui.
Alors, allons-y.
Ah, le bois de boue, c'est plus compliqué. De très grands ébénistes se sont amusés à l'utiliser. Alors, le bois de fil, c'est facile. Vous avez une bille de bois. Et cette bille de bois, elle va être débitée par sillage dans sa longueur.
Mais la bille de bois... Appelons, qu'est-ce qu'une bille de bois déjà ?
Ah, c'est comme un arbre. Vous imaginez un arbre.
C'est un tronc.
C'est un tronc.
Voilà.
Un arbre dont on a coupé toutes les branches.
Voilà.
Donc on récupère ce tronc. Et autrefois, il y avait des scieurs de plaquage. Ils se mettaient de part et d'autre de ce tronc. Et avec une scie, ils le découpaient bien souvent à l'œil, où ils avaient des procédés peut-être pour tracer, et ils découpaient ces feuilles qui faisaient 3 mm d'épaisseur, 2-3 mm, ces feuilles de plaquage à la scie, tout du long
Mais il ne se ratait pas.
Ben, je pense que non, il devait être sacrément habile et il y a des planches magnifiques qui représentent ces artisans
dans l'encyclopédie de
Roubaud.
Ah ben c'est le Roubaud, oui.
Le Roubaud, c'est un menuisier ébéniste, André Jacob Roubaud, qui a écrit tout son savoir et également les techniques complémentaires à son métier de menuisier, qui sont celles, métier d'ébéniste, donc de doreur, de laqueur,
de bronzier.
Bronzier aussi. C'est fascinant. Ce livre est magnifique parce qu'il explique les techniques de l'époque et ces techniques qui ont été perdues. Les tours de main, malheureusement, ont changé avec l'industrialisation. Déjà dès le début du 19e siècle, l'apparition du papier de verre. Les techniques d'autrefois, c'était des techniques qui étaient essentiellement de polissage avec des peaux de poisson, des peaux de raie, et qui non seulement ponçaient le bois, mais le polissaient et lui donnaient déjà un beau brillant. Quand vous voyez les intérieurs justement de portes d'armoire ou de sacristie, vous avez quelquefois cette espèce de patine un peu polie, brillante, c'est très beau. Et il finissait après avec une plante qui pousse dans les marais, qui est la prêle, qui contient beaucoup de silice et qui est très peu, très finement abrasive, qui fait très peu de poussière et qui donne au bois non seulement une douceur, mais
un velouté.
Mais un velouté, c'est extraordinaire, mais aussi une brillance chatoyante. Et ces techniques-là ont été remises
à l'honneur
par un ébéniste qui, lui, m'a fait vraiment découvrir le métier, qui est Jean de Dreuil, et qui en a déjà parlé, qui est vraiment l'ébéniste pionnier qui a redécouvert ces techniques. Il y a passé au moins 10 ans de sa vie. Et il m'a transmis une partie
de
son savoir, une bonne partie, je dirais même. Quelqu'un de très sympathique et un très grand professionnel également.
Voilà. On revient sur l'habit de bois.
Oui, et je vais juste finir, puisque après ce polissage, on cirait. On cirait avec de la cire pure,
pour nourrir
le bois. Et on frottait cette cire avec un polissoir qui était un faisceau de joncs tressés et qui permet de faire chauffer la cire qui était très dure, hein, qu'on applique comme ça un peu sommairement sur le bois. Eh bien, on la travaille, la cire, avec ce polissoir qui permet de faire pénétrer bien la cire jusqu'à saturation des pores du bois et obtenir un brillant régulier qui est superbe, qui est soyeux et qui nourrit le bois, qui empêche le dessèchement accéléré des cols. Je voulais juste parler de cette technique ancestrale puisque elle existe depuis les Égyptiens, paraît-il, le polyciré. Eh bien,
le fameux
polyciré.
Ah, oui.
Donc voilà, je redis, hein, c'est Jean de Dreuil qui l'a remis à l'honneur. Et nous, beaucoup d'ébénistes se sont intéressés à cette technique, dont moi-même également. Et elle a beaucoup d'intérêt parce qu'elle préserve dans le temps les meubles, alors que le vernis au tampon, qui est une... On vernissait plutôt les instruments de musique au XVIIIe siècle, hein, mais où on faisait des vernis Martin, vous voyez, des sortes de lacs. Mais le vernis au tampon s'est développé et vulgarisé au XIXe siècle avec l'apparition du papier de verre, la technique étant plus facile, moins éprouvante physiquement, et puis on obtient un brillant glacé qui séduisait pas mal, surtout à partir des arts déco. Il a été davantage et complètement utilisé à cette période-là, dans les années 1920. Mais entre le début du 19e siècle et ces années 1920, le vernis au tampon est apparu. Progressivement, il a remplacé doucement la finition polycirée qui demandait des efforts physiques et du temps.
Alors, tu parles justement du polycirée. Alors, sur les instruments de musique, c'était du polycirée ?
Non, c'était plutôt vernis.
C'était vernis, alors.
Les instruments de musique, les violons, étaient vernis. Alors, je ne pourrais pas vraiment en parler parce que c'était des vernis qui étaient au tampon ou qui étaient faits avec plusieurs épaisseurs de gomme naturelle. Hein. Les vernis, ce sont des gommes qui sont extraites d'arbres exotiques et des gommes laques.
Oui, c'est ce qu'on dit, des gommes laques.
Voilà, et qui sont dissoutes avec de l'alcool et qui permettent ensuite de se fixer sur le bois par une alchimie qui fait que l'alcool s'évapore pour fixer de manière régulière le vernis jusqu'à obtention d'un beau brillant, bien glacé.
On voit ça, on va en reparler, ouais. Puisque nous allons passer un morceau de musique, puisqu'on parlait de musique et d'instruments de musique. Ouais. Je crois que tu as choisi un morceau de musique de Vivaldi, ce grand compositeur de musique italienne qui était né à Venise en 1678, un petit peu quand même avant Bach, puisqu'on passera un morceau de Bach après, et qui était mort à Vienne en 1741. Et effectivement, au départ, il était violoniste et puis compositeur de musique baroque avant d'être prêtre, bien évidemment. Alors, tu as choisi un morceau de musique de Vivaldi.
Oui.
Parce que tu travailles avec...
Je travaille accompagné de musique classique. Oui, j'écoute beaucoup de musique. Nous sommes trois à l'atelier et on apprécie de travailler en musique.
Alors là, qu'est-ce que tu nous as proposé aujourd'hui alors ? Gloria, je crois.
Le Gloria de Vivaldi. Je crois que c'est un extrait du Gloria.
Oui.
Voilà. Oui.
On va écouter Benoît
va nous
mettre Gloria après cette bonne introduction, mon cher Romain. Je reçois aujourd'hui Romain de Sauce, gardé de Sauce, qui est menuisier ébéniste, ou menuisier en ébène, on en reparle après.
Surtout restaurateur.
Voilà,
on travaille dans le temps.
Voilà, on va écouter, après t'avoir écouté, on va écouter Vivaldi.
Merci.
Thank you.
bien, nous venons donc d'écouter. Nous venons, pardon, d'écouter ce très beau morceau du Gloria de Vivaldi.
De Vivaldi, oui.
Et donc,
deuxième
nous étions là pour parler avec Romain de Sauce, Gardé de Sauce, qui est menuisier ébéniste, et nous nous entretenons justement sur à la fois les techniques, sur l'évolution du mobilier, essentiellement la fin du 18e et enfin du 17e et début du 18e. Et entre-temps, on vient d'écouter ce morceau de musique et on m'apporte une petite demande. Que pensez-vous de la laine d'acier extra fine conseillée par un ébéniste? On va en parler peut-être après. On termine peut-être ce que nous disions sur le polyciré et sur
Vernis. Le vernis. On parlait du vernis. Alors, le vernis a pour caractéristique d'être, une fois posé sur le vernis au tampon, hein, une fois
expliquons,
fini...
Expliquons ce que c'est que
cette
vernis
technique,
au
vernis au tampon. Eh bien, on remplit les pores du bois avec de la pierre ponce qui est finement concassée et on saupoudre cette pierre ponce sur le bois fini et on le travaille avec une grosse toile qui permet qui est imbibée d'alcool qui enrobe un tampon de laine et on le tient dans la main. Et on applique ce tampon, cette grosse toile, on la frotte, on frotte ce tampon recouvert de cette toile sur le bois, et tout en travaillant cette fine pierre qui est saupoudrée, ça peut ressembler à du talc si vous voulez. Et à force de travailler en rond et en huit, la pierre ponce pénètre dans le port du bois jusqu'à l'obtention d'une surface parfaitement lisse. Et donc,
qui devient translucide,
qui devient brillante.
Mais elle est translucide.
C'est translucide.
Au départ,
absolument.
Effectivement, c'est du talc.
Au départ, c'est blanc. Et ce blanc vient se fondre dans les pores du bois jusqu'à les boucher complètement.
Parce qu'il y a un échauffement de la matière, ce qui permet qu'elle se transforme.
C'est ça, elle se transforme par une sorte d'alchimie.
Oui, c'est ça.
Et jusqu'à obtenir une surface comme marbrée et bien polie. Ça, c'est la première étape du vernis au tampon. Ensuite, on va utiliser dans un autre tampon qu'on va recouvrir d'une toile plus fine, même très fine. On va travailler là, pour le coup, avec un mélange de gomme lac, donc de gomme naturelle.
D'un EVA, d'un arbre exotique.
D'arbres exotiques, oui, c'est ça, et qui sont dissous. Avec de l'alcool à vernir. Et là, on va travailler en appuyant moins fort la surface. On va là, pour le coup, déposer vraiment le vernis protecteur qui va protéger durablement le meuble, le bois, et de manière après immuable. L'inconvénient du vernis au tampon, c'est que il reste relativement éphémère dans le temps, parce que selon l'exposition du meuble, s'il est près d'une source de
chaleur,
de lumière. Voilà,
il risque
avec un vernis
d'être insolé
plus ou moins rapidement. Ou de jaunir. Il y a des vernis qui peuvent également un peu verdir dans le temps. Donc l'inconvénient du vernis, c'est que du vernis au tampon, c'est que le meuble va subir tranquillement dans le temps une dégradation progressive.
Oui, il est éphémère.
Qui généralement avec un éclairage normal, un vernis au tampon, enfin une luminosité normale dans un salon, par exemple, un vernis au tampon aura une durée de vie d'une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. Tout dépend. Si le meuble est bien caché de la lumière, là, ça peut être beaucoup plus durable. Mais c'est là l'inconvénient du vernis. L'avantage qu'on peut y trouver, c'est qu'il ne demande aucun entretien. Je parle pour les meubles qui ont des surfaces verticales. Après, pour les tables de salle à manger, c'est une autre histoire, c'est extrêmement fragile. Et ça demande de grands soins. Et il m'arrive bien souvent, quand on me demande de vernir des tables, de revenir pour reprendre le vernis, pour égrainer le vernis parce qu'il y a eu des rayures ou des petits
Ouais.
accidents. Et donc, je reviens sur place chez
Client.
les clients et puis je retravaille le vernis, ce qui n'est pas toujours très, très facile à faire. C'est... Voilà.
On peut
Mais
retoucher un vernis quand
on
même.
peut retravailler, on
Sur
peut le
une,
retravailler, oui.
sur une rayure, par exemple, sur une table, on peut refaire un vernis, enfin refaire. On peut, je dirais, faire une rustine d'une certaine manière.
L'inconvénient,
Hein?
c'est que on peut pas travailler juste sur la surface abîmée.
C'est
Il faut
l'ensemble.
reprendre sur tout l'ensemble,
Ah.
sinon on fait des marques et ou des voilà, c'est ça, des décalages qui seront pas très esthétiques. Voilà, moi j'ai une préférence pour la finition polycirée dont je parlais en premier. Puisque, pour le coup, cette technique est réversible dans le temps et traverse les âges. Il m'arrive parfois qu'on me confie des meubles qui n'ont jamais été restaurés depuis le XVIIIe siècle et qui sont dans un état de conservation tout à fait sain.
Exceptionnel, ouais.
Ouais. Pas forcément, oui, c'est. Pas forcément en très bon état, puisque c'est pour ça qu'on me demande de venir les soigner, mais ils sont plutôt bien conservés et on peut rattraper la finition, c'est ça qui est magique. Alors que le vernis, vous êtes obligé de décaper. Quand le vernis est foutu, il n'y a rien à faire. Quand il a jauni ou quand il a blanchi, parce on a mis, l'ébéniste a mis ou le vernisseur un excès de pierre ponce, eh bien, ça se dégrade encore plus rapidement dans le temps et ça blanchit. Voilà. Donc,
Oui, les quantités sont très importantes quand on fait un vernis. C'est un peu comme une sauce. Il faut
oui,
savoir
il faut avoir il
les
faut savoir la
proportions.
travailler. Il faut savoir travailler la pierre ponce. C'est une chose qui n'est pas simple parce qu'il faut en mettre sans excès.
Ouais.
Et ça, c'est redoutable parce que
La pierre ponce, c'est du calcaire au départ. C'est
c'est une pierre, oui, d'Italie.
d'Italie.
Qu'on trouve, je crois, sur les bords de l'Adriatique, et une pierre qui est très blanche. Et ça, comme image, j'aime bien donner celle du talc. Ça peut ressembler à du
Oui, c'est
talc
vrai, d'apparence.
quand elle est finement
Très finement,
concassée.
oui, c'est
Voilà.
ça. On revient sur le bois de
Le
boue,
bois de boue.
hein,
Oui,
parce que
on n'en a
sans
pas
ça,
parlé.
on va avoir des auditeurs qui vont dire, mais ils parlent effectivement à bâton rompu, mais ils ont rompu la
Ouais.
conversation. Alors,
Ouais.
à propos de bois
Ouais.
rompu, ben alors,
Ah, ben c'est ça.
voilà.
Le bois de boue, c'est du bois qui est coupé en travers. Donc, vous imaginez
Un tronc d'arbre
un tronc d'arbre ou
qu'on
une
met en
branche
co...
d'arbre, eh
Mais...
bien, vous le saucissonnez. Et
ça
très.
veut dire que en fait le bois de boue, votre tronc est à plat ou il est perpendiculaire et parallèle à votre corps?
Non, là, il est à plat. En
Donc voilà.
l'occurrence, il sera à plat puisqu'il sera finement découpé, puisqu'autrefois, au
Comme
18e
ça, c'est-à-dire
siècle,
comme ça.
oui, c'est ça comme ça. Autrefois, au 18e siècle, les bois étaient sciés, tous les plaquages étaient sciés
Mais pas dans la longueur.
à la main ou au bois montant. Si, aussi dans la longueur,
Oui, alors,
aussi.
bois de boue et
Alors, le
donc.
bois de boue, donc, il est comme tronçonné
Voilà, sur la longueur.
Non. Sur son tranchant, en travers. Il est coupé, il est tronçonné
Comme un saucisson.
comme un saucisson.
D'accord.
Exactement,
Voilà,
on a
ça c'est
la
le bois
bonne
de boue.
image. Ouais.
Et le bois de fil,
Et le bois de fil, il est dans sa
c'est
longueur.
dans la
Il est
longueur.
coupé dans sa longueur,
Voilà.
c'est ça. Et donc, quand on a un plaquage en bois de boue, on voit les canaux
Voilà.
des veines en bois de boue. Donc, ça fait comme des petits points. Alors, ce sont souvent les très grands ébénistes qui ont utilisé ce genre de technique de plaquage en bois de boue pour faire des effets de marqueterie, voilà, pour faire des effets de relief, pour donner soit dans les décors géométriques,
En
soit,
perspective, par exemple, les
voilà, une
marqueteries, les
perspective
cubes.
dans les marqueteries de cubes sans fond.
Voilà.
Alors là, c'est plutôt, on va jouer sur les essences de bois pour donner cette profondeur et cette perspective qui est fascinante d'ailleurs.
Ouais. La technique du cube en perspective, ouais. C'est étonnant.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est trois dimensions.
Trois dimensions qui est à plat.
Ouais.
Et c'est vrai que l'effet est saisissant. Il y a d'autres frisages qui sont faits en perspective, qui sont fascinants également.
La perspective qui arrive dans la peinture au XVe siècle, la perspective, on l'a déjà dans les chapiteaux au XIIe. C'est-à-dire que quand on sculpte un chapiteau en pierre, il est fait pour être vu à 3 ou 4 mètres. C'est-à-dire qu'en fait, la sculpture, elle n'est pas du tout réalisée comme si vous l'aviez devant vous, mais il faut vraiment qu'il y ait un profil et qu'il y ait un prolongement. Et je pense que la marqueterie de cube en perspective, c'est un peu la même chose.
Oui, c'est ça. Les ébénistes étaient très ingénieux pour faire illusion sur le relief qu'ils donnaient dans leur décor à leur parement de meubles et dans leur scène de paysage ou scène de vie.
Voilà. Et les paysages, là, je dirais des scènes de paysage avec des petits personnages en ivoire, en plaquage d'ivoire, oui. C'est une spécialité surtout allemande, je pense, au départ.
Oui.
Moi, je vois... Quand nous vendons un euro, une commode, souvent, ce sont des ébénistes allemands.
Oui, souvent. Souvent, ces ébénistes allemands qui sont arrivés à Paris, justement, qui sont des artisans d'une précision et d'une rigueur
extrême.
Remarquable, qui étaient souvent d'origine protestante, très rigoureux, et qui ont fait des œuvres d'une fantaisie incroyable. Je pense à Benman, par exemple,
oui.
Joseph Benman, qui a fait des meubles d'une qualité incroyable.
Benman, il a fait aussi des satinés extraordinaires pour la chambre de la reine à Versailles, par exemple. On a des meubles, je dirais, bruts, entre guillemets, qui ne sont pas vraiment de l'ébénisterie calculée, comme on parlait tout à l'heure, comme nous venons de parler des cubes en perspective. Mais oui, c'est un grand ébéniste du 18e qui, ouais, effectivement, arrive d'Allemagne,
ouais,
et travaille pour la cour de France à la fin de l'époque Louis XV et pas mal sous
Louis XVI. Louis XVI, et qui a fait des meubles à mécanisme. Il me semble qu'il a fait un cabinet extraordinaire. Je crois,
oui,
que c'est lui.
Et ça,
avec des mécanismes qui se...
Alors là, vous
parlez à tour de
je
clé.
Pense
non,
que
je
vous parlez à Röntgen. Vous pensez à Röntgen.
Ah bah, Röntgen, c'était le roi, en effet, des meubles à mécanismes.
À mécanisme, alors, très architecturé.
Et avec des poids et contrepoids qui permettaient de découvrir des... Très architecturé, toujours, c'est vrai. Ouais. Et ces ébénistes étaient d'origine allemande, en effet, ou hollandaise.
Et ouais.
Les premiers sont venus, ont été attirés par Louis XIV. On revient encore à Louis XIV, qui a développé de manière extraordinaire, qui a donné
tous
cette
les
impulsion.
Arts, essentiellement.
Cette impulsion avec l'inspiration de l'Antiquité romaine et donc de la Renaissance italienne, entre-temps. Et donc on a la quintessence de tous ces arts réunis à Paris tout au long du XVIIIe siècle, puisque c'est à cette période-là que le plus beau mobilier au monde a été réalisé à Paris, en France, par des ébénistes surdoués qui étaient d'origine souvent étrangère, c'est vrai. Et avec tous les corps de métiers qui sont complémentaires, ceux des bronziers, des tapissiers, des ciseleurs, des doreurs sur bois et sur bronze. Voilà, j'en oublie. Les sculpteurs, évidemment.
Bien sûr. Ouais. Ben, vous voyez, tu vois, mon cher Romain, les gens sont passionnés puisque nous avons un message de Claire qui gentiment nous met merci pour votre passionnante émission. Donc on touche du bois, qu'elle reste avec nous. J'aimerais savoir quelles études faut-il faire pour pratiquer votre métier. Est-ce un CAP d'ébéniste? Qu'est-ce que tu as fait, toi, pour en arriver là?
Alors moi, je suis passé par cette formation d'un CAP d'ébéniste qui s'est fait en 3 ans.
Tu avais quel âge quand tu as commencé?
J'ai commencé par être. Quand j'ai commencé le métier d'ébéniste, j'avais 18 ans. Je suis rentré dans la bonne école qui porte ce nom de La Bonne Graine. C'est une école fondée par, entre autres, l'impératrice Eugénie et des religieux qui organisaient comme des patronages dans les années 1860, je crois.
Oui, bien sûr, c'est
pour les enfants un peu désœuvrés, les enfants de la rue, des quartiers plutôt de l'est de Paris. Et en effet, cette école se situait passage de la Bonne Graine.
C'est
qui
dans
donne
le
dans le faubourg Saint-Antoine, oui, dans le 11e.
Et t'avais arrêté tes études, t'as passé ton.
Alors j'ai arrêté mes études assez tôt. J'ai arrêté le cycle général après ma seconde.
Oui, c'est ça. T'es arrivé en seconde, donc c'est pour expliquer à cette charmante personne ce qu'on peut faire quand on n'a pas l'appétence pour faire des études, de hautes études, qui sont d'autres hautes études que là, en tant que telles, ce sont des études très précises.
Donc j'ai eu ces deux formations. L'une de tapissier à l'école Boulle.
En même temps que tu faisais ça
avant. J'ai fait ça avant. Où j'ai obtenu. Donc là, j'étais formé par des professeurs, de très bons professeurs.
C'était où ça, l'école Boulle?
C'est dans le même quartier, c'est près de la place de la Nation. Et alors à l'école Boulle, il y a plusieurs types de formations. Et j'avais fait là-bas un CAP en 2 ans, et qui m'avait bien intéressé. Mais je ne me voyais pas faire ce métier toute ma vie. Au départ, j'avais une idée très précise. J'étais attiré par le métier d'antiquaire. Mais je ne me suis pas vraiment trouvé un sens commerçant. Et c'est grâce surtout à ma formation à La Bonne Graine que je dois dire j'ai préféré simple fait qu'on rentre vraiment dans la vie professionnelle en étant apprenti. Donc vous êtes en alternance entre l'atelier chez le patron qui a bien voulu de vous comme apprenti.
Comme de l'alternance.
C'est ça. Pour un contrat qui généralement dure 3 ans qui peut durer 2 ans pour les personnes qui ont fait des études plus poussées. Vous êtes en alternance entre l'atelier la plupart du temps et l'école, donc cette fameuse école La Bonne Graine, où vous avez des cours de
technique
donnés par des professeurs sur la théorie.
La théorie et donc
la
les
technique,
techniques.
L'histoire de l'art, et puis le dessin. Le dessin industriel, le dessin d'art. J'ai eu la chance d'avoir de très bons professeurs. Et cette école jouit d'une très bonne réputation.
Elle existe toujours.
Ah oui.
C'est combien d'élèves là-bas?
Je ne saurais pas dire. Je pense qu'il doit bien y avoir autour de 250 élèves.
150,
peut-être 200 élèves. Ah. Le directeur de l'école est un de mes anciens camarades, Jérôme Thévenny,
qui
dirige
une
très bien cette école. Et j'ai un jeune apprenti.
Qui vient
J'en ai eu de nombreux d'ailleurs qui sont passés. Comme moi-même, j'ai reçu
beaucoup.
De Benoît Blaise je lui dois énormément, vraiment.
On
c'est comme un par un pour moi.
Ouais.
Et on est souvent en contact.
Un peu comme Jean de Dreuil.
Un peu comme Jean de Dreuil.
Ouais,
oui.
On peut rendre hommage à ses maîtres.
C'est ça, ce sont des bonnes personnes. Et puis des très bons professionnels. Très bons professionnels, très instruits. Alors, je ne sais plus, je parlais de...
On était parlé sur les études, justement.
Voilà.
Et donc, tu as passé un CAP ce moment-là, au bout de 3 ans?
Voilà, au bout de 3 ans. Et après, on peut continuer pour se perfectionner toujours en alternance avec d'autres formations qui sont complémentaires à l'ébénisterie. Ça peut être la marqueterie. Par exemple, j'ai avec moi un confrère, Mathieu, qui est le pilier de l'atelier, je dirais, parce que il est toujours très concentré à son travail, à l'établi, et il est il va faire les travaux les plus délicats. Puisqu'il a, je l'ai formé donc en apprentissage, classique CAP, ensuite il a fait son CAP de marketeur, et puis ensuite il a fait un BMA, qui est un brevet des métiers d'art, qui est le top, on va dire, de la formation dans cette école. Lui-même était ingénieur de formation avant de venir à l'atelier. Donc c'est une reconversion. Et aujourd'hui, ça fait 15 ans que j'ai la joie de travailler avec lui. On fait des travaux de très belle qualité ensemble, on forme une très bonne équipe et avec mon jeune apprenti André Charles, qui porte d'ailleurs le prénom du grand ébéniste Boulle.
Bien sûr, André Charles Boulle. Voilà. Eh bien, il est 13h03, on va faire un petit intermède avec donc Jean-Sébastien Bach. Tu as choisi un autre morceau.
Oui. Qui est en fait une retranscription de Jean-Sébastien Bach de concerto à cordes de Vivaldi encore. Et j'aime énormément cette version pour piano.
Voilà. Alors, Jean-Sébastien Bach, tout le monde connaît, bien sûr, grand compositeur allemand, bien sûr, musicien et compositeur allemand. Et donc, il était né à Eisenach en 1685. Donc, il est un peu plus jeune que Vivaldi. Il a fait d'ailleurs pas mal de transcriptions de Vivaldi.
Il a fait pas mal de transcriptions de Vivaldi, oui.
Et il est décédé en 1750 à Leipzig. Donc, on va écouter ce morceau, puis on peut peut-être en reparler, oui. Chers auditeurs.
Oui, oui.
Merci.
Je me réjouis beaucoup.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Eh bien, nous poursuivons cette émission Art Bâton Rompu. Je suis avec aujourd'hui un restaurateur de meubles.
Ancien.
En meubles anciens, exactement.
De préférence.
Exactement. Et donc, qui restaure aussi bien des meubles, non seulement en bois d'arbre, si on peut dire, c'est-à-dire des meubles bruts, avec une essence unique, c'est-à-dire du chêne ou du poirier ou du noyer, et ou alors les meubles qui sont plaqués et donc qui font appel à la menuiserie, je dirais, élaborée, comme on vient d'en parler. Mais on nous a posé une question, avant que je ne réponde à la deuxième question de Claire, on me pose la question, que pensez-vous de la laine d'acier extra fine conseillée par un ébéniste? Alors, je suis avec donc Romain Gardet de Sauce, qui est donc, vous explique, qui est restaurateur en meubles. Donc, pour restaurer les meubles, il faut du matériel.
Oui. La laine d'acier, en effet, elle est très utile. Pour nettoyer un meuble ciré, justement, un meuble en bois massif,
voilà.
Donc en bois
brut. Sculpté.
Sculpté, par exemple, oui, ou mouluré, qui est encrassé, vous pouvez nettoyer avec de la laine d'acier très fine. Et pour vous aider à décrasser le meuble, vous pouvez utiliser un dessireur. Et en effet, c'est une bonne chose. Ça va redonner.
L'aspect original.
Redonner les qualités visuelles et naturelles du veinage du bois de votre meuble. Et ensuite.
On le nourrit en le cirant après.
Et ensuite, vous, une fois que les bois bien nettoyés, vous le recirez, oui, c'est ça. Vous renourrissez. L'ensemble avec de la bonne cire d'abeille.
Donc là, c'est justement, c'est grâce à tout cette, je dirais, attirail plus ou moins chimique, ouais. Mais la bonne chimie, c'est-à-dire ouais. Une bougie naturelle, parce que vous utilisez aussi des cires un peu spéciales, mais vous avez aussi des outils. Il ne faut pas oublier les outils.
Oui, les outils, bien sûr. Et juste... par rapport à la laine d'acier, évitez de l'utiliser sur un meuble verni. Le vernis, c'est immuable, il ne faut pas y toucher, il faut faire appel à un ébéniste, là, pour le coup.
Et donc, je suis donc avec un restaurateur, donc si vous avez besoin, d'ailleurs, je peux vous dire que Romain a déjà restauré des choses pour moi-même et mes clients, et donc, vous n'hésitez pas à me demander. Alors, il y a une autre question, mais justement, je vois que Claire est très passionnée, elle demande quel bois utilisez-vous pour fabriquer un meuble? Mais je vous rappelle quand même que notre ami Romain n'est pas fabricant de meubles.
Oui, alors en effet, je me suis vraiment spécialisé que dans la restauration du mobilier et particulièrement les meubles recouverts de plaquage, donc les meubles marquetés, comme on dit couramment, ou dans la restauration des sièges, ou tout ce qui est bâti de meubles en bois massif. Mais je ne fais pas de fabrication, je n'ai pas les outils pour fabriquer, je n'ai pas non plus la place.
Et... mais par contre, par exemple, excuse-moi de te couper, mais par exemple, tu viens de parler de sièges.
C'est oui.
Ça fait partie du mobilier, les sièges. Et donc, quand tu as un pied hanté, c'est-à-dire qui a été coupé, restauré, tu peux aussi avoir un meuble, un siège qui a perdu un pied. Là, tu le resculptes, tu le fais la sculpture ou tu demandes à quelqu'un?
Là, généralement, ce que je fais, c'est que je démonte le siège entièrement. Je prends la pièce de bois endommagée où il manque un élément. Et je vais faire une greffe qui va se fondre dans la veine du bois. Pour que ce ne soit pas visible et surtout que ce soit solide dans le temps. Quand le collage est fait dans la longueur, ça ne bouge pas. On utilise des colles irréversibles pour ça. Je parle uniquement des greffes ou des parties cassées qui sont excellentes. Et alors, si le travail du bois n'est pas trop ouvragé en sculpture, je m'en occupe. Je sais le reprendre. Et si c'est le cas, s'il y a une sculpture assez développée, j'ai un très bon sculpteur auquel je confie ce genre de choses. Voilà.
Oui, parce qu'il faut avoir plusieurs cordes à son arc, et sur l'arc, eh bien, il y a plusieurs intervenants.
Voilà.
quand on fait un meuble, c'est un peu comme un restaurateur, pas un restaurateur, mais un peintre. Eh bien, lui, il veut, le peintre célèbre fait éventuellement le visage et laisse, je dirais, à ses autres intervenants, élèves, la possibilité de dessiner et de peindre les mains, par exemple. Ou les étoffes, souvent, sont réalisées par le maître, le peintre majeur. Mais donc, dans ton atelier, tu as combien d'apprentis, si je puis dire ?
Alors, j'ai un apprenti. Oui. J'en ai eu un certain nombre que j'ai pu
Bien
former
sûr.
Depuis ça fait une vingtaine d'années que je suis installé à Garches. Et avant, j'étais au Faubourg Saint-Antoine, je le disais, chez mon cher Benoît Blaise, et où j'ai travaillé pendant 10 ans. Et d'ailleurs, le Faubourg Saint-Antoine qui a beaucoup changé. Autrefois, vous aviez des ateliers un peu
surtout
partout. Je me souviens que quand je sortais pour chercher mon casse-croûte, on rencontrait les amis, les confrères, le serrurier, le bronzier, le tapissier. C'était sympa. Ça a beaucoup changé. Mm. Il y a beaucoup moins d'ateliers. Et donc, moi, j'ai formé, en effet, comme moi-même j'ai été formé, j'ai formé à mon tour d'autres ébénistes. J'en ai un certain nombre qui sont passés à l'atelier.
Donc là, tu as un apprenti et puis tu as d'autres...
Et j'ai... Un salarié dont je parlais tout à l'heure, Mathieu, qui lui est un ébéniste confirmé, ébéniste et marketeur. Et donc, il nous arrive bien souvent d'avoir des objets en marqueterie boule, par exemple. C'est un mélange d'écailles de tortue et de laiton, et quelquefois même d'étain
oui.
Et qui vont représenter des scènes fantaisistes, souvent animalières ou florales.
Avec des petits personnages un peu grotesques, comme nous disions.
Oui, amusants, voilà.
Des singes, et puis à côté, un maître...
Voilà, dans des décors imaginaires et très...
On le retrouve en céramique, effectivement, dans le moustier, entre autres, voilà.
Et il nous arrive donc de faire ce genre de travaux qui sont très réjouissants à chaque fois et gratifiants, parce que de remettre en vie ces objets poussiéreux ou très abîmés, c'est un vrai bonheur.
Et alors, tu vois de temps en temps des bureaux Mazarin, moi j'ai vendu un il y a 6-8 mois, tu vois des bureaux anciens Mazarin,
oui.
Ou alors t'as surtout de la marqueterie Napoléon III? Non, t'as plutôt
alors,
un peu de tout.
Oui, on a eu la chance de travailler sur, je pense, un très beau bureau Mazarin. Mais c'est pas très fréquent. Voilà.
Oui,
très fréquent. On a plutôt des cartels.
Ah oui.
Des jolis cartels.
Alors, les cartels, sachez que ce sont des pendules, pour ceux qui ne savent pas, qui sont sur un support et que l'on plaque, bien sûr, sur le mur. Et nous avons donc essentiellement cartel Louis XV en marqueterie, et puis, bien sûr, une riche ornementation de bronze. Alors là, on fait appel aussi, pour le cartel, on fait appel aussi à un horloger, je pense, non ?
Oui, bien sûr.
Appel à un horloger pour qu'il remette en ordre le mouvement.
Oui, bien sûr. C'est passionnant aussi, ce métier d'horloger. Les cartels, on en a aussi qui sont à poser sur les cheminées ou sur les commodes. Les petits cartels, c'est très joli, ça décore bien un salon ou une pièce. Et puis, c'est comme de voir ces pendules fonctionner, c'est comme le battement d'un cœur. Ça me fait penser à... Ça apporte de la vie, voilà. Avec ce tâtement des cloches qui donnent... de la cloche qui donne l'heure et les demi-heures. Les cartels, on en a déjà sous Louis XIV, avec des superbes, des pendules religieuses notamment.
Là, on me pose une question. Une dame au téléphone vient d'envoyer un mot. Elle possède des meubles d'époque et elle utilise la popote du faubourg. Ça redonne du brillant et enlève les griffures du vernis. Alors là, Vous êtes, chère madame, en train de, je crois,
c'est
vous brosser un petit peu les dents, mais vous n'êtes pas chez le dentiste. Et donc là, vous faites, ben moi je me souviens, la popote du père Ebeno. Ouais. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais oui, c'est pour restaurer, oui, je dirais, d'une manière, c'est même de l'entretien. Mais par contre, passer chez un menuisier en ébène ou un ébéniste pour restaurer, ça, ce sont des choses qu'il faut faire sur les meubles. D'une manière, je dirais, assez attentive. Hein. Il faut faire ça tous les 15 ans pour certains meubles. Il y a des meubles qui ne bougent pas, mais ouais. Les vernis, effectivement, il faut reprendre ça.
Oui. Bah, passer de la popote sur un vernis, ça fera pas de mal au meuble, au contraire.
Ouais.
Ça va le décrasser, le nettoyer, et c'est une bonne chose de le passer sur un morceau de coton et de finir avec un morceau propre à sec. Vous allez redonner l'éclat au vernis et c'est une très bonne chose, oui.
Oui.
Si le vernis n'est pas altéré, après, si la blanchi ou jaunie, la popote n'y fera pas grand-chose.
C'est ça. Alors, on n'a pas parlé des estampilles. Ouais. Ça fera peut-être l'objet d'une prochaine émission, on ne sait jamais. J'ai l'impression que les gens sont très intéressés par ce que tu nous ouais. dis, mon cher, mon cher Romain. Ouais. Là, j'ai un message aussi de Malek qui me met « Bonjour, les gommelacs sont issus d'un insecte de la famille des cochenilles qui transforme la sève de certains arbres en résine ?» Point d'interrogation. Est-ce que c'est cela ? Elles viennent d'Asie, d'Inde ou de Thaïlande ? Et il met « Je suis d'horreur à la feuille depuis longtemps. » Et en effet, nous faisons de magnifiques métiers. Ouais. Et il était en train de conclure en disant « Nous sommes parfois devant des œuvres ou des lieux exceptionnels. » Et donc, il nous remercie pour cette émission. On a encore quelques instants. Ouais. Oui, les gommes lacs, elles viennent bien sûr...
De la transformation d'insectes. Je l'ignorais, j'avoue. Je pensais que c'était...
Il pose la question. Ouais. Hein. Les gommes, ils sont issus d'un insecte de la famille cochenille ouais. qui transforme la sève de certains arbres en résine.
Ah oui, certainement.
Voilà, ouais. ça doit être ça. Ouais. Ben, un petit peu aussi, comme on faisait des compilations de coquilles de ces petits insectes tout petits, des coccinelles.
Oui.
Pour avoir les couleurs aussi, parce que les couleurs naturelles sur les bois marquetés, elles se font de quelle manière ? C'est pas de la peinture, c'est des bois qui sont trempés dans des matières naturelles pour avoir par exemple un jaune citrin ou avoir un vert amande. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir ces bois ?
Ça, je ne sais pas.
Alors toi, tu te fournis auprès de producteurs, quand tu as un meuble ou tu as une couleur particulière, tu fais ouais. comment ?
Je pense que ces bois teintés, qui sont souvent des bois de sycomore,
ouais.
Ils sont teintés par des procédés chimiques pour aller dans la masse, pour aller à cœur du plaquage. Les secrets étaient déjà bien jalousement conservés au XVIIIe siècle. On parlait tout à l'heure de hache et de ébène qui rivalisaient un peu l'un et l'autre avec leur verre.
Et tu vas me dire aujourd'hui que toi aussi, tu as tes secrets.
Non, moi je ne sais pas. Je me fournis... Alors, en plaquage, j'ai un stock de plaquage qui me suffit. Et parfois, je vais chez mon marchand de bois.
Tu en recherches de temps en temps ? Parce qu'on peut trouver des chutes de bois à droite ou à gauche, non ? Est-ce qu'il faut ?
Oui, alors j'ai Benoît Blaise dont je parlais tout à l'heure qui quelquefois me dépanne quand j'ai besoin d'un bois très particulier puisqu'il a des stocks de plaquage qui sont des trésors. Et puis j'ai mon fournisseur de bois de plaquage qui est les établissements Georges qui est le
grand fournisseur.
Qui est le grand fournisseur et qui a une machine au bois montant, comme Alain de Saint-Exupéry également, qui est en Dordogne, et qui a cette même machine qu'il a reconstituée à partir de pièces détachées. C'est extraordinaire.
Ah, qu'est-ce que c'est que cette pièce ?
Ah, mais ça, c'est une machine qui fait 2 étages de haut et qui a été conçue à la fin de l'époque Louis XVI, je crois, et qui permet de... débiter les feuilles de plaquage, donc d'une bille de bois, de manière très régulière. Alors, on plaque la bille de bois dans un cadre. Il y a une gigantesque scie qui fonctionne avec un système de vérin, je pense, qui fonctionne toujours de la même manière, qui va et qui vient. Et il y a un ascenseur qui, par le dessous, va monter progressivement la bille de bois qui pèse un âne mort au fur et à mesure que la feuille est découpée.
On voilà. monte au lieu de descendre.
On monte, on fait monter la bille de bois.
Ah ouais.
C'est extraordinaire. Et c'est aujourd'hui, je crois qu'il n'y a que 3 machines qui sont en service, peut-être que 2. Je sais que Georges, les ateliers, le marchand de bois, Georges, qui est porte de Bagnolet, a ça. C'est fascinant à aller visiter, justement.
Ah ben, on peut aller visiter.
Et puis Alain de Saint-Exupéry, qui est son fils qui reprend son magnifique atelier et qui vend du bois scié également de toutes essences, qui est en Dordogne.
Dans quel coin?
Alors j'ai pas eu encore la chance d'aller lui rendre visite, mais je saurais pas dire. Je crois qu'il a et il est également maître serrurier. Il fabrique des clés à partir d'une pièce d'acier brute.
C'est précieux, ça, parce qu'en vrai, c'est...
Des clés trèfles, des clés en losange.
Ou en fleur de lys.
Ou en fleur de lys, mais je parle du canon de la clé.
Le canon, oui, ouais.
Vous avez des canons qui sont sophistiqués en forme de trèfle, de losange, ou de double, ou à double fourreau.
Oui, effectivement, circulaire. Cercle, ouais. Qu'on a fait surtout sous l'Empire.
Et c'est un as et c'est le seul à les faire de manière comme au XVIIIe siècle. Voilà.
On va bientôt terminer cette émission. Si vous êtes d'accord, on recommencera, on continuera.
Hein,
peut-être. J'étais donc avec Romain Gardet de Sauce, qui est donc restaurateur de mobilier. Et son atelier est à Garches. Il n'est pas loin de Versailles, donc il voit de temps en temps du très très bon mobilier. Je vous engage à me contacter si vous voulez. Et là, on va terminer sur un petit morceau de musique un peu particulier, Les Heures.
Oui, c'est plus moderne. C'est Philippe Glass. C'est une musique assez répétitive, assez calme. Et très harmonieuse.
Et cette musique est extraite d'un film, non ?
Oui, voilà. Oui. Oui, c'est ça, Les Heures.
Je remercie donc Romain Gardet de Sauce, restaurateur de mobilier, de m'avoir fait la joie et nous le privilège de l'avoir entendu pendant presque une heure et demie. Et je vous souhaite une très bonne journée et on se revoit dans un mois. Merci à tous.
C'est
merci
moi qui vous remercie, maître.
À merci bientôt. Beaucoup. Merci
à
bien.
Au revoir.
Vous venez d'entendre le libre journal des histoires de l'art et du patrimoine Art Bâton Rompu, dirigé par Olivier Doutrebente, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mardi 24 mars 2026, de midi à 13h30, et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix front de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.